Une même foi, dans une même communion, dans un même Père, et avec un même salut. Nous sommes tous d'une même famille, et bientôt nous serons tous ensemble là-haut. On dit quelquefois que l'Esprit Saint conduit toutes choses. Eh bien, ce n'est pas une exception ce matin, car vous verrez que il y a un incontestable fil conducteur entre tout ce qui s'est dit, tout ce qui s'est fait, tout ce qui s'est pensé, tout ce qui s'est chanté et ce qui va suivre. Il m'arrive lors d'une méditation de m'arrêter quelquefois sur un passage vraiment très très court, d'y penser, d'y réfléchir, de le décortiquer. Ainsi, souvenez-vous, il y a quelque temps déjà, j'étais ici avec certains d'entre vous et j'avais extrait de la parole de Dieu les premiers mots et nous avions médité ensemble sur « Au commencement, Dieu ». Aujourd'hui, j'ai aussi été interpellé par une très courte phrase. Une phrase qui, de prime abord, semble évidente, et je dirais même qu'elle ne nécessite pas de grands commentaires tant elle paraît claire. Et pourtant, cette affirmation, je l'ai lue, relue, re-relue, et plus je la lisais, et plus je découvrais sa richesse, sa puissance, sa profondeur, son mystère, sa portée. Elle a fini par m'apparaître, cette courte phrase, il y a suspense là, hein, vous ne savez pas quelle phrase, elle a fini par m'apparaître comme la plus troublante, la plus importante, et je dirais même la plus fondamentale de toute la Bible. Au point donc de mériter largement que nous partagions ensemble ces réflexions ce matin. Et ceci dans un but d'encouragement, d'exhortation, d'édification. Mais assez de suspense, assez de préambule. Nous ouvrons nos Bibles dans Jean. Et ceux qui ne l'ont pas, c'est pas grave. Vous écouterez. Dans Jean, au chapitre 19, et nous y lirons les versets 17 jusque 30. Ce que nous allons y lire, c'est évidemment un récit bien connu, le terrible récit de la crucifixion. Je vous le lis dans la version Louis II. Verset 17. Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne, qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié et deux autres avec lui, un de chaque côté et Jésus au milieu. Pilate fit une inscription qu'il plaça, on l'a évoqué tout à l'heure, sur la croix. Et qui était ainsi conçu Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lurent cette inscription, parce que ce lieu où Jésus fut crucifié était tout près de la ville. Elle était en hébreu, en grec et en latin. Les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate, « N'écris pas « roi des Juifs », mais écrit qu'il a dit « Je suis le roi des Juifs ». Pilate répondit « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit ». Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et en firent quatre parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi la tunique qui était sans couture, d'un seul tissu de haut jusqu'en bas, et dirent entre eux « Ne la déchirons pas ». Mais tirons au sort à qui elle sera. Cela arriva afin que s'accomplît cette parole de l'Écriture. Ils ont partagé mes vêtements. Ils ont tiré au sort ma tunique. Voilà ce que firent les soldats. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit aux disciples, « Voici ta mère. » Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, « Afin que l'Écriture fût accomplie, j'ai soif. » Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge, l'ayant fixée à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus prit le vinaigre, il dit, « Tout est accompli. » Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Je ne sais pas si... Moi, je lis toujours ça avec émotion. Je ne sais pas si vous avez deviné, à la lecture de ce récit, somme toute dramatique, du sacrifice suprême de Jésus, quelle est donc cette courte phrase qui fera l'objet de notre méditation ? Pour être courte, en tout cas, elle n'en est pas moins immense. Et je trouve que lors de la lecture, elle jaillit littéralement hors du texte et nous éclate à la figure. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli ». Ce « tout est accompli » est une affirmation dont nous allons analyser le sens. Le sens est la portée, passée, présente et future. Et aussi, ce qu'implique pour nous ce formidable message d'engagement, d'assurance et d'espérance. D'abord, un mot sur le contexte. Il s'agit du récit, nous l'avons dit, nous le savons tous, de la crucifixion. Les quatre évangiles nous relatent ce moment majeur, avec évidemment leur sensibilité, leurs observations, leur analyse et leur approche personnelle. Ainsi, par exemple, tous mettent l'accent sur les souffrances de Jésus lors de ce supplice. Un supplice qui, il ne faut pas l'oublier, était le plus cruel, le plus terrible de toutes les condamnations en vigueur à cette époque. Et comme si cette cruauté n'eût pas été suffisante, les Romains en ajoutent encore une couche. Là où on utilisait généralement des cordes pour fixer les membres du condamné sur la croix, pour les pires des suppliciés, pour les plus graves, on remplaçait les cordes par les clous. Ainsi, la douleur était encore accrue. Ces clous qui pénétraient à coups de marteau dans les chairs et dans les articulations, qui brisaient tout, leur arrachant des cris de douleur. Et ensuite, lorsqu'on redressait la croix, imaginez ce qu'endurait le condamné. Son poids du corps qui tirait, ses blessures qui s'agrandissaient, ses articulations qui se déchiraient, lui arrachant des cris de douleur terribles avant même que la croix ne fût dressée, et des douleurs effroyables. Tellement effroyables d'ailleurs, je ne sais pas si vous le savez, que pour les atténuer, et permettre aux suppliciés de rester conscients plus longtemps, on lui tendait un remède au début du supplice, une sorte de drogue antidouleur. Et c'est un détail que seul Marc nous relate. Il dit, Ils conduisirent Jésus au lieu nommé Golgotha. Ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de myrrhe. C'est la raison d'être de ce remède. Et il ajoute, mais il ne le prit pas. Non, il ne le prit pas. Et tant pis pour la douleur, car il veut rester conscient jusqu'au bout. En liaison avec son Père, pendant qu'il accomplit la terrible mission qui lui est confiée. Il connaît, lui, l'importance de l'enjeu, et il veut donc l'assumer pleinement et en pleine conscience jusqu'au bout. Les quatre évangiles relatent aussi les détails de la crucifixion qui sont tous des accomplissements de certaines prophéties, en assurant ainsi en quelque sorte l'authenticité. Mais vous les connaissez, donc nous ne reviendrons pas là-dessus aujourd'hui. Par contre, bizarrement, cette parole de Jésus, pourtant essentielle, qui fait l'objet de notre méditation ce matin, elle n'est relatée que par Jean. Comment cette parole a-t-elle pu échapper aux autres ? Matthieu, Marc et Luc nous disent que Jésus a crié d'une voix forte avant d'expirer. Mais il ne nous relate pas les paroles qu'il a prononcées. Seul Jean nous dit qu'il a crié « Tout est accompli ». C'est que, si on observe bien la scène, Jésus, le disciple que Jésus aimait, et qui est bien l'auteur de cet évangile, les spécialistes en attestent, il occupe sur cette scène une place privilégiée. Il est à côté des Marie, juste au pied de la croix. C'est qu'il entretenait avec le Maître, il faut bien le dire, une relation privilégiée, une relation qui date du début de son ministère. Et ici, là où il est placé au pied de la croix, rien ne lui échappe. Pas un rictus de douleur, pas un mot, pas un soupir. Cette relation intimiste qu'il vit avec Jésus fait de lui un observateur privilégié. Ainsi, on peut dire que son observation et sa relation de la crucifixion est celle qui est la plus chargée en émotions et en sentiments. Nous relisons, près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas et Marie de Magdala. Et ici vient une parole importante. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Et puis de même, il se retourne vers le fils et lui dit, « Voilà ta mère. » Lui se prépare à partir, à remettre à Dieu son esprit. Et avant cela, il rétablit entre ses proches, qui sont là au pied de la croix, la relation telle qu'elle doit être désormais. Il n'y a plus place pour la mère de Christ, encore moins pour une Marie, mère de Dieu, qui doit faire preuve d'une adoration particulière, ni pour des frères, des proches. Il est le Fils de Dieu. Il est en train de cesser d'être Dieu fait homme pour redevenir Dieu, Fils de Dieu, Sauveur du monde. La parole fait chair. Et ainsi, il rétablit la relation latérale entre eux. Femme, voilà ton fils. et voilà ta mère. Et alors, et seulement alors, survient la fin de notre récit. Après cela, Jésus, qui savait que tout était consommé, dit, afin que l'Écriture soit accomplie, j'ai soif. On lui tend la branche avec du vinaigre, et quand il eut pris le vinaigre, il s'écria, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Ici, si vous êtes attentif, vous devriez vous étonner. Et vous devriez même me poser une question. Et me dire, là, j'ai trouvé quelque chose qui n'est pas logique. En effet, souvenez-vous au début du récit de son supplice, il refuse une boisson qu'on lui présente et qui doit servir à atténuer les douleurs. Il refuse le vin, mais les demi-heures. Et puis, maintenant, voilà qu'il dit qu'il a soif, qu'il réclame du vinaigre. Pourquoi ce changement d'attitude? Il y a cela deux raisons. Une première raison, d'abord, c'est le souci remarquable de Jésus d'accomplir les Écritures jusqu'au bout et dans les moindres détails. Ainsi, les esprits chagrins plus tard, les coupeurs de cheveux en quatre, ne pourront pas dire que ce n'était pas le sacrifice du Messie qui était attendu. Et pourtant, beaucoup l'ont contesté. Le psaume 69 ne déclare-t-il pas « Pour apaiser ma soif, il me donne du vinaigre ». Et puis il y a une deuxième raison, et ce n'est pas la moindre. Il est au bout de son épreuve, de son agonie, de son supplice. Il sent qu'il va expirer. Ses forces l'abandonnent. En fait, il sent l'eau qui monte dans la cage thoracique. Il a peine à respirer. Son cœur s'affole et ne bat plus que faiblement. Sa gorge se noue. Les sons n'arrivent plus à sortir. Mais il sait qu'il a une parole terrible à prononcer, la dernière. Il lui faut donc les forces pour prononcer cette parole. Et c'est pourquoi il demande ce vinaigre. Et puis, quand on le lui donne, qu'on le lui tend, il dit, parce que là c'est la fin, maintenant, tout est accompli. Voilà décrit en quelques mots ce terrible tableau, celui de la crucifixion. Nous avons remis en place tout ce contexte que vous connaissez, la plupart d'entre vous, en tout cas dans les grandes lignes, certainement. Mais maintenant, nous allons nous appesantir sur le sens et analyser cela ensemble. Un seul mot décrit ce cri. Un seul mot en grec, car le texte original est en grec. Mais il ne faut pas perdre de vue que Jésus, lui, ne l'a pas dit en grec. Il l'a dit en araméen, car il s'exprimait en araméen. Et le texte original utilise comme mot un verbe. Et ce verbe, c'est « tétélestai ». C'est lui qui exprime toute la pensée de Jésus quand il termine son sacrifice. On le retrouve dans Jean 19, on le retrouve aussi dans les Actes. Après cela, Jésus, qui savait que tout était consommé, c'est notre verbe « tétélestai ». Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « tout accompli », c'est le même verbe. Dans les Actes, en parlant des apôtres, après qu'ils eurent accompli tout ce qui était écrit de lui, c'est le même verbe. Or, ce verbe, il est rendu dans notre langue par plusieurs participes différents, entre lesquels il faut choisir, car il y a plusieurs significations possibles. Et nous allons voir ensemble qu'il s'agit de quelque chose de remarquable. On peut dire « fini », on peut dire « consommé », « accompli », « achevé », « payé ». Auquel donner la préférence pour faire une bonne traduction? Non pas certainement pour des raisons personnelles, pour une inclination ou une sensibilité personnelle, mais pour des motifs profonds, parce que l'un, plutôt que les autres, exprime mieux la pensée de Christ au travers de ce cheminement. N'est-ce pas une chose étrange qu'à cette question des traducteurs, pourtant d'une indéniable conscience et d'une égale science et connaissance, ils aient donné des réponses différentes. Ce qui est clair en tout cas, en préambule, c'est que la notion de fin n'est pas la fin des temps, ni la fin d'un temps, encore moins la fin de tout, ni non plus la fin comme on la voit au générique d'un film. La traduction, en fait, elle dépend du commandement du commanditaire, et le commanditaire, c'est Dieu. Je répète, la traduction dépend du commandement du commanditaire. Et ainsi, la traduction doit correspondre et être liée à ce commandement. C'est peut-être un peu compliqué, donc je vous éclaircis ça avec des exemples. Dans cette époque-là, Tétélestai était notamment au bas des documents. Quand il s'agissait d'une reconnaissance de dette et qu'elle était payée, on mettait en bas Tétélestai. Donc si Dieu lui demande de payer notre dette, là, on traduira par « la dette est acquittée, elle est payée ». Si Dieu lui a signé une mission, là, le traducteur dira « elle est exécutée, elle est achevée ». Si Dieu lui a adressé un plan d'action, la bonne traduction sera « il est terminé ». Dieu lui ordonne des choses à faire au cours de son parcours terrestre. Là, on traduira « tout est consommé », comme le passage que nous avons vu tout à l'heure. Si enfin Dieu lui fait mener une grande œuvre de salut, là, on dira « tout est accompli ». Ainsi, ce fameux Tétélestai, loin de prêter à confusion, comme on pourrait le croire, à interprétation douteuse, à équivoque, nous offre au contraire un choix entre différentes traductions, mais elles ont toutes ceci de remarquable, c'est qu'elles sont toutes correctes. Et elles peuvent coller le mieux avec telle ou telle facette de l'ordre de Dieu. Ainsi, loin d'être prise en défaut, la parole de Dieu ici nous montre sa perfection, sa science qui dépasse le savoir humain et la science des traducteurs et qui nous laisse entrevoir le divin au travers de ce seul mot. Et puis nous en venons vraiment maintenant au cœur. Et le cœur, j'ai envie de l'intituler « Défaite ou victoire ?» Commençons par le moins agréable, « Défaite ». Quand on parle d'un jugement, d'une condamnation, d'une exécution capitale pour ponctuer le ministère terrestre de Jésus, la logique voudrait qu'on parle d'échec, de défaite. Il meurt comme un brigand, comme ces brigands qui l'entourent. Peut-on raisonnablement parler dans un tel cas de victoire ? D'ailleurs, tous, les prêtres, les curieux, les soldats, les passants, car il y a beaucoup de passages à cet endroit-là, aux abords de la ville, doutent déjà de lui. Et ils lui demandent un signe concret qu'il est le Fils de Dieu, le Messie, le Sauveur du monde qu'il prétend être. Cela les rassurait au moins, plutôt que d'assister à ce pitoyable spectacle qui n'incite certainement pas à la joie et à l'admiration, mais plutôt au mépris. Jésus a été cloué sur la croix à 9h, le matin. Ceux qui l'ont vu mourir l'ont interpellé, afin qu'il prouve qu'il était vraiment le Christ, le Fils de Dieu. Et ils l'ont interpellé de la manière suivante. Ils lui ont dit, « Si tu es le Fils de Dieu, descends de ta croix. » La foule qui passait par là s'écriait, je reprends ici le texte, « Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même, si tu es le Fils de Dieu, descends de ta croix. » De même aussi, en Matthieu, nous lisons, les chefs des prêtres, avec les scribes et les anciens, se moquent de lui et disent « Il a sauvé les autres et il ne peut même pas se sauver lui-même. S'il est le roi d'Israël, qu'il descende de sa croix et nous le croirons. » Les soldats, enfin, se moquent également de lui, s'approchent de lui et lui offrent le vinaigre en disant « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Les deux voleurs, enfin, crucifiés côte à côte, lui disent aussi de descendre de sa croix. Et si l'un sera sauvé, l'autre, qui n'a rien compris, sera aussi perdu. Pourquoi donc, ce stade, il faut se poser la question, pourquoi donc, crient-ils tous, descends de ta croix ? Pourquoi était-il d'accord sur ce point? Était-il unanime, quel que soit le type de public? Les prêtres, les scribes, les pharisiens, les anciens, la foule, les soldats, les brigands? Tous sont unanimes sur ce point. Si tu es le Fils de Dieu, descends de ta croix. Je ne sais pas si vous avez la réponse, mais je vous l'apporte en tout cas, et je vais l'étayer pour vous montrer qu'elle est indubitable. La réponse, c'est Satan qui est derrière tout cela. Les insultes, et surtout les invitations à descendre de sa croix, elles viennent de Satan. Mais je ne l'affirme pas simplement, je vais vous le prouver. Plutôt, lorsque Jésus avait déclaré qu'il serait crucifié, souvenez-vous, Pierre, avec toujours autant d'entrain, autant d'allant, autant d'impulsivité, lui avait dit « Cela ne t'arrivera pas, Seigneur !» Et qu'est-ce qu'il a répondu à Pierre ? Il lui a dit « Arrière de moi, Satan !» Pierre était-il devenu Satan ? Non. Mais il était manipulé par Satan, et cette parole venait de Satan. Le diable avait donc persuadé Pierre de lâcher cette parole. Et là, nous reconnaissons que le diable ne voulait pas que Christ soit crucifié. C'est que le diable est, du verbe haïr, pas du verbe être, le diable est par-dessus tout le sang de Christ et la crucifixion. C'est la pire chose pour lui. En effet, Satan sait très bien que les hommes ne peuvent être sauvés du péché de la mort que par le sacrifice substitutif de Christ. Satan sait très bien ce que cette croix représente pour lui, c'est la défaite. Ainsi, je suis sûr que dans ces moments-là, c'est Satan qui a inspiré à tous les spectateurs de prononcer ces insultes et de dire « Descends de ta croix ». Et c'est clair que Jésus aurait pu le faire. Mais Dieu soit loué, il ne les a pas écoutés. Il aurait en effet pu facilement appeler ses anges qu'il aurait fait descendre de la croix et qu'il aurait porté en gloire. Mais ce faisant, ce n'eût pas été une victoire, mais une défaite et la victoire de Satan. Ici, au contraire, il va jusqu'au bout. Il ne se laisse pas prendre par ces derniers pièges de Satan pour le faire échouer. Et il pourra ainsi s'écrier au final, « Tout est accompli ». Ce qui pouvait passer en premier examen pour une défaite se transforme en victoire. Et donc voici la deuxième facette, la victoire. Parler de victoire à propos de la croix, c'est effectivement bien de cela qu'il s'agit. Ce tout est accompli, lâché dans un dernier effort, il a une portée incalculable. Il a déclenché directement des événements que vous connaissez tous, tels que le voile du temple qui se déchire, ou le tremblement de terre et les sépultures qui s'ouvrent et des morts qui ressuscitent. Des choses spectaculaires qui ont fait dire à certains observateurs, assurément celui-ci était le Fils de Dieu. Mais, dans le but de ne pas allonger, je vais juste retenir quatre points avec vous, que nous allons parcourir brièvement. Et ces quatre points sont les suivants. Premièrement, les prophéties concernant Jésus sont accomplies. Deuxièmement, ses souffrances sont terminées. Troisièmement, la colère de Dieu contre notre péché est également terminée. Et enfin, quatrièmement, notre salut est accompli. Premier point donc, nous allons parcourir ceci brièvement, rassurez-vous. Les prophéties sont accomplies. Jésus, c'est remarquable à noter, n'est pas venu en fait pour accomplir les prophéties. Il est venu pour faire la volonté de son Père. Mais en faisant la volonté de son Père, il a accompli les prophéties. C'est un peu différent. Il sait cela très bien. Il a une connaissance parfaite des Écritures. Et c'est ainsi qu'à la fin de son sacrifice, quand tout ce que le Père attend de lui est achevé, toutes les prophéties le concernant sont donc accomplies, réalisées. Et c'est ce qui lui fait déclarer aussi, tout est accompli. Le deuxième point, les souffrances de Jésus étaient terminées. Ça, c'est un point qui souvent nous échappe, que nous négligeons, que nous passons sous silence, voire que nous ignorons. Pourtant, Jésus a souffert toute sa vie et il a été incompris même par ses plus proches. Nourrisson déjà, souvenez-vous, ils doivent fuir avec lui en Égypte pour le soustraire à la colère d'Hérode qui veut le massacrer. Et puis, le jour de son tout premier sermon. Les gens essayent de le jeter du sommet d'une falaise pour le tuer. De nombreuses fois, on dit que les scribes et les pharisiens ont essayé de l'assassiner. Ces derniers avaient même tenté de le lapider. Quand la plupart de ceux qui le suivaient l'ont abandonné, Jésus dit à ses 12, « Partirez-vous aussi ?» Il vécut une vie de dénuement, d'exclusion, d'abandon, de rejet, de mépris, d'incompréhension. Et pourtant, bien qu'il ait fait tant de miracles, guéri tant de personnes, et n'ayant fait que le bien autour de lui, il fut traité de lunatique, possédé par un démon. C'est fou. Et au jardin de Gethsémané, le soir qui précède sa crucifixion, ses disciples s'endorment et le laissent seul. Dans ce jardin, il pria avec une telle intensité que sa sueur était comme des grumeaux de sang. Quand il fut arrêté, quelques minutes plus tard, tous les disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent. Nous ne reviendrons pas sur son calvaire, ultime épreuve qui le mena à la croix. Et quand il s'écria « Tout est accompli », c'est vrai que cela signifiait dans le cadre de sa vie sur terre, une vie de souffrance dans un monde qui le rejette parmi des hommes pécheurs, et que ce calvaire est terminé. Le troisième point, la colère de Dieu envers notre péché est également terminée. La chose la plus horrible concernant la crucifixion est que Jésus ait dû prendre nos péchés en son propre corps. Lui qui pourtant ne connaissait pas le péché, il a été fait péché pour nous. Jésus n'a pas seulement porté le châtiment de nos péchés, mais il a porté nos péchés eux-mêmes en lui, en son propre corps, jusque sur la croix. Ce qu'il y a de plus terrible avec la crucifixion, le moment le plus terrible, ce n'était pas la douleur physique, bien qu'elle fût extrême. D'autres hommes aussi ont été torturés. Des chrétiens ont été brûlés au bûcher pour leur foi, ou sont morts en martyrs. Mais Jésus a souffert ce qu'aucun autre homme, aucun autre homme n'aurait pu souffrir. Dans son livre « Torturé pour Christ », Wim Brandt fait le récit d'un prêtre torturé avec lui dans les prisons communistes. Et ce dernier, ce prêtre, lui déclare « J'ai capitulé et j'ai tout avoué sous les souffrances de la torture, tout ce qu'on m'a demandé. » Le prêtre ajoutait à Wim Brandt « Pardonne-moi mon frère, mais j'ai souffert plus que Christ. Je peux comprendre pourquoi ce pauvre homme a pu dire tout ceci sous la torture. Mais sa déclaration est fausse. Personne n'a jamais souffert ce que Christ a souffert. Parce que personne n'a jamais eu les péchés du monde placés sur lui, à les supporter comme un fardeau en son propre corps. Il a non seulement porté nos péchés en son corps, mais également leur châtiment. Les pires ignominies commises par l'homme au travers de l'histoire, jusque dans notre actualité, il a dû les porter sur lui, comme autant de fardeaux écrasants, et qui le séparait de Dieu. Et ainsi, Jésus a porté la colère de Dieu sur la croix. C'est difficile à comprendre ou même à admettre. Mais pourtant, c'est vrai. Ésaïe déclare, le Seigneur a placé sur lui l'iniquité de nous tous. Ainsi, quand Jésus est mort, portant les péchés de tous les hommes, portant nos péchés, il était séparé de Dieu. Et il a pu ainsi lâcher ce cri qui n'est pas étonnant. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et ceci, c'est le drame de la croix. Ce Père qui se détourne de son Fils unique, qui est avec lui depuis la création du monde et même avant, la colère de Dieu contre nos péchés s'est apaisée donc au moment précis où il déclare « Tout est accompli ». Mais à quel prix ? Quand vous mettez votre confiance en Jésus, aucune colère ou aucun jugement ne peut plus vous atteindre. Parce que le jugement de Dieu pour le péché est déjà tombé sur Jésus, sur la croix. Mais par contre, si vous rejetez Jésus, vous devez alors payer pour vos propres péchés. Et enfin, le dernier point, notre salut est accompli. Le docteur Immers raconte l'anecdote suivante. Il n'y a pas très longtemps, trois jeunes hommes sont venus me voir, cherchant le salut. Tous les trois avaient ceci en commun qu'ils haïssaient leur père, ce qui est une transgression du cinquième commandement. Je leur ai dit à tous les trois, raconte le docteur, de mettre leur confiance en Jésus et d'avoir ainsi leur péché lavé par son précieux sang. C'est ce que fit l'un d'eux. Il mit sa confiance en Jésus et il fut sauvé. Ensuite, il s'en alla chez son père et lui demanda pardon. Mais les deux autres, ils allèrent juste chez leur père en lui demandant pardon. Mais ils ne mirent pas leur confiance en Jésus. Quel dommage! Ils n'ont pas voulu mettre leur confiance en Jésus, mais à la place, ils l'ont placé dans leurs propres bonnes œuvres, qui étaient en l'occurrence, cette démarche d'aller demander pardon à leur père. Mais la Bible est très claire. Il nous a sauvés, non par les œuvres de droiture que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde. Le problème du péché est donc définitivement réglé. Il n'y a plus de problème du péché. Car la solution à ce problème, c'est le Messie lui-même. Il n'y a plus de problème du péché. Il n'y a plus que le problème du pécheur. Nous ne sommes pas sauvés en faisant quelque chose, même si ce quelque chose est quelque chose de bien. Nous ne sommes sauvés que grâce à la miséricorde de Christ. Lui seul, qui a accompli le nécessaire pour nous sur la croix. Tout ce que nous avons à faire, c'est de mettre notre confiance en lui. Jésus a tout accompli sur la croix. Il voulait dire par là que tout ce que nous avions besoin de faire pour être sauvés était accompli. Maintenant, il n'y a plus qu'à placer sa confiance en lui. Au moment où on place sa confiance en Jésus, où on l'accepte pour nous-mêmes et qu'on accepte son sacrifice sur la croix, on est sauvé, et ce, pour l'éternité. Il est maintenant temps de conclure, j'ai été un grand bavard. James Hudson Taylor a été le fondateur de la mission à l'intérieur de la Chine. Pas quelque chose de facile. Et avant de partir là-bas, il a lu un livre alors qu'il n'avait que 15 ans, dans la désinvolture de sa jeunesse. Ce livre s'appelait en français « L'œuvre accomplie de Christ ». The finished work of Christ. Et alors qu'il lisait ce livre, à 15 ans, il a réalisé que tout ce qu'il avait besoin pour être sauvé avait déjà été accompli sur la croix par Jésus. Et à 15 ans, il s'est mis à genoux et il a fait confiance à Jésus. Il fut immédiatement sauvé et, devenu adulte, il devient un grand missionnaire en Chine. Aujourd'hui, nous sommes appelés à faire la même chose. Nous sommes appelés à nous repentir si ça n'a jamais été fait et à placer ou à renouveler notre confiance en Christ. Avec une foi simple, ainsi renouveler nos péchés pardonnés et cette assurance de la vie éternelle avec lui, mesurant ce qui lui en a coûté. Ainsi nous pouvons dire avec lui, tout est accompli. Car Dieu, un passage que vous connaissez bien, en tout cas pour la première moitié, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, et ça c'est moins connu, mais c'est tout aussi utile, Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Et alors, ainsi, maintenant, nous pouvons tous ensemble faire nôtre cette affirmation de Philippiens qui déclare que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ, lequel, existant en forme de Dieu, à l'origine, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort et même jusqu'à la mort de la croix. Mais c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Et il lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Soyez donc prêts, car il est clair qu'il vient bientôt. Et mon souhait pour chacun ce matin, c'est qu'il puisse vous dire alors, pendant que les autres seront perdus, viens, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Tout est accompli. Amen. Inclinons-nous dans la prière. Père Saint, Ce matin encore, nous replongeons avec émotion dans ce que tu as accompli pour nous, ce sacrifice. Il t'en a coûté, toi qui étais saint et juste. Tu as pris sur toi nos souillures, nos péchés, pour que ce matin, nous ayons le droit de t'appeler notre Père. Merci, Père, de ce sacrifice. Il n'a pas été vain, car nous t'aimons, nous te servons et nous t'attendons. Amen.